89.1.
Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers.
Vous écoutez CKRL.
Le grain de sable d'Attaque Québec.
Bonjour à tout le monde, bienvenue à l'émission Le Grain de Sable, c'est Michael Lessard qui parle. Ben oui, c'est la première fois que j'anime cette émission, accompagné de Étienne Blondeau.
Salut.
Bonjour Étienne. C'est ça, donc Marie-Christine est occupée aujourd'hui, elle va revenir dans d'autres semaines. On va peut-être aussi agrandir l'équipe, on travaille là-dessus, avec David Maxime à la technique. Donc le Grain de Sable, c'est de la musique engagée, mais comme vous le savez, c'est aussi un magazine socio-économique. C'est réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, finalement Attaque Québec. Donc aujourd'hui c'est que récemment, il y a eu le sommet international des coopératives qui a lieu à Québec du 6 au 9 octobre dernier. Donc ça incluait des assureurs, des financières mutualistes, je le précise, c'est pas uniquement les coopératives classiques. Selon les organisateurs, il y avait environ 3000 participants, participantes, représentant 93 pays quand même, 200 conférenciers, 22 forums, donc assez énorme, merci. Selon la description originale, je vous le dis parce que je trouvais ça un peu cocasse, donc ce sommet est un lieu de rencontre biennale pour des leaders des entreprises coopératives et mutualistes qui souhaitent partager leurs préoccupations sur les enjeux d'affaires actuels et futurs. Donc, un peu axé sur des occasions d'affaires, mais pas exclusivement. C'est un grand sommet qui mélange à la fois occasions d'affaires, mais aussi enjeux communautaires, des objectifs de changement social, tout ça ensemble. Je vous donne des exemples. On a beaucoup parlé de comment les coopératives agricoles peuvent assurer une sécurité alimentaire et la propriété locale. On a parlé aussi de comment inclure les gens les plus démunis dans les coopératives et les projets. Il y en a plusieurs aussi qui ont fait la promotion des coopératives locales de santé, qui n'est pas un sujet évident, c'est un sujet épineux quand même, sujet à débat. Mais il faut dire que ça coûtait à peu près 1000 $ en moyenne pour s'inscrire. Sur le site, j'ai été un peu surpris de voir les messages d'accueil du premier ministre Harper, du ministre conservateur Lebel et du premier ministre Couillard. Mais on comprendra que c'est un sommet international qui a eu besoin d'argent et tout, donc je présume que ça explique ça. Mais c'était quand même surprenant pour la moyenne des activités coopératives, c'est rarement le cas. Mais en conclusion, ce sommet d'envergure mondiale a mis en vedette des études qui révèlent qu'il y aurait 2,6 millions de coopératives dans le monde, avec environ 1 milliard de membres, ça crée environ 250 millions d'emplois. Et finalement, on conclut que les coopératives représenteraient aujourd'hui environ 12% de l'emploi total des pays du G20. Donc, c'est surprenant. On semble voir qu'il y a eu une croissance du modèle coopératif. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on a une capsule du journal Ensemble qu'on va vous présenter bientôt. On va interviewer ici le professeur Luc Audebrand, qui est spécialisé justement sur les questions de gestion de coopérative, création, éducation au modèle. Et j'en ai oublié un, il me semble.
Oui, c'est Paul-Yvon Blanchette, qui est un des fondateurs d'une coop de Québec, Construction Ensemble. On va avoir un entretien enregistré avec lui.
OK. Donc, Joël Gauvin-Racine, Nicolas Feltzeming et Pascal Charlebois, du journal Coopératif Ensemble étaient justement au sommet et ont préparé la capsule qui suit, qui fait le lien entre une action écologique à Lévis et... oui, dans le fond, je me taire là-dessus, je vais les laisser l'expliquer lui-même.
Du journal Ensemble au sommet international des coopératives. Je suis en compagnie de mon collègue Nicolas Feltzeming. Allô Nicolas?
Bonjour Joël. Encore une fois aujourd'hui, c'est la troisième journée où on va explorer notre compostage radiophonique. La radio compost, c'est une façon de, au lieu de diffuser des préjugés, on va composter les idées reçues. Alors on fait œuvre environnementale et aujourd'hui, justement, on va parler d'environnement parce que notre collègue Pascal Charlebois, qui va nous rejoindre sur les lieux du sommet pour couvrir également, a assisté au lancement d'une toute nouvelle initiative et on va composter une idée reçue. Laquelle, Joël?
C'est celle selon laquelle ce sont les petits gestes qu'on pose individuellement dans notre vie quotidienne qui vont permettre de sauver la planète, entre guillemets. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, ben je pense qu'on a été élevé là-dedans. Hein. On s'est fait dire chaque petit geste est important, éteindre la lumière, on prendra pas notre auto pour aller juste acheter une pinte de lait, etc. Mais récemment, les groupes environnementaux ont exprimé avec beaucoup de vigueur l'idée que on doit faire un virage pas mal plus serré que ça pour réussir à éviter le désastre environnemental qui plane sur notre 21e siècle. Et ce qui est demandé, c'est des actions musclées de la part des gouvernements. Donc, ce qu'on dit en ce moment, dans l'espace public, c'est non, au contraire, les petits gestes ne suffiront pas. Pourtant, aujourd'hui, il y a une coopérative, il y a un groupe qui a lancé une initiative qui, oui, certes, elle fait appel à des petits gestes, mais c'est une initiative qui multiplie les petits gestes dans un contexte d'éducation. Alors, on a trouvé ça extrêmement intéressant et Pascal va nous en parler à l'instant.
Oui, en effet, il y a la coopérative Forêt d'Ardennes, qui est une coopérative de Lévis, qui va faire de l'éducation, fait des ateliers pédagogiques dans les écoles primaires. Elle va montrer aux jeunes certains gestes concrets qu'ils peuvent faire avec leur famille. Donc, ils comptabilisent toutes les émissions sauvées par les petits gestes de ces élèves-là qui ont suivi les ateliers jusqu'à maintenant, au-dessus de 1000 élèves qui ont suivi les ateliers. Et puis, ils vont vendre ça sous forme de crédit carbone à des entreprises. La ville de Lévis, d'ailleurs, par exemple, qui vient d'annoncer qu'elle a acheté des crédits carbone ou des jardins ou n'importe quel particulier qui voudrait compenser là, pour l'utilisation de sa voiture tous les jours peut aller sur le site de Forêt d'Ardennes, calculer ses émissions et acheter des crédits carbone. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce projet-là qui compensera les émissions dues au déplacement des invités au Sommet international des coopératives. Oui, tout à fait. Pour en savoir plus, on peut consulter et lire l'article de Pascal Charlebois sur notre site ensemble.coop. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love.
Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love.
G-Man contained the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Jamaline, disinfect the scene, my love, 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 but please don't go, I love you so, my lovely.
Bienvenue à l'émission Le Grain de Sable. C'était la chanson Breeze Blocks, de Alt J. On peut dire que c'était une recommandation spéciale de David Maxime qui fait la mise en onde aujourd'hui. Très bonne chanson. Juste avant, on a entendu une capsule du journal Ensemble qui parlait d'un projet coopératif qui s'appelle Forêt d'Ardennes, mm-hmm. qui a lieu à Lévis. Et si j'ai bien compris, les enfants avec leurs parents conçoivent différentes actions pour émettre moins de gaz à effet de serre et autres actions écologiques. Et le Sommet international des coopératives a fait des liens avec eux pour considérer que c'est une compensation pour leurs propres émissions de gaz.
Ouais, leurs propres déplacements.
Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu étirer la sauce comme concept. Je trouve que n'importe qui pourrait dire ça. Donc, Forêt d'Ardennes, je pense que c'est un beau projet. Dire que ça compense pour les gaz d'émission d'effet de serre du sommet, je trouve ça tiré par les cheveux. Mais, par contre, c'était un sommet éco-responsable. Si on voit sur leur site les démarches qu'ils ont fait, les efforts, un sommet aussi gigantesque, ça sera jamais parfait, mais au centre des congrès, il y a un effort vraiment louable d'être écologique et de ne pas produire le moins de déchets possible. Donc, ça, c'est très bien. Et à la fin du sommet, Étienne, je te passe la POC là-dessus, le manifeste des jeunes.
Ouais, pour rester sur le sujet du journal Ensemble dont on parlait plus tôt, là, c'est un article de ce journal-là par Pascal Charlebois, là, qu'on entendait dans la chronique plus tôt. Il nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des jeunes coopérateurs qui étaient présents au sommet et qui ont fait un manifeste, en fait, une déclaration des jeunes qui visait à mettre de l'avant les valeurs et les principes du modèle coopératif qui n'étaient pas assez mis de l'avant là, pendant toute la durée du sommet. Donc, c'est ça, ils ont produit une déclaration qui a pour titre « Coopérer pour transformer la société » parce que dans cette déclaration-là, les jeunes disent que l'intention des coopérateurs, ça devrait être aussi de transformer la société, de la rendre davantage juste, équitable, et qu'en fait, toutes les valeurs du modèle coopératif ont leur utilité pour faire ça. Donc, ce qu'ils veulent souligner dans leur déclaration, là, qu'on mettra sur le site de l'émission, c'est que le modèle coopératif, c'est plus qu'un modèle d'affaires pour faire des sous. Ça permet de transformer la société parce que la société serait trop influencée par l'individualisme et le consumérisme.
J'ai remarqué dans leur manifeste, ils accordent une importance à la participation des gens démunis, des gens qui ont moins de pouvoir dans la société.
Oui.
Et c'est sûr que dans un grand sommet comme ça, la coopérative communautaire participe pas à un grand sommet qui coûte 1 000 $.
C'est ça. Déjà, c'est prohibitif pas mal, mais en fait, oui, ils trouvent que c'est une piste de solution que dans de tels événements, de mettre à l'avant-scène, dans les conférences et tout, des représentants des tranches de la population qui souffrent le plus du modèle actuel ou des mesures d'austérité ou plus précisément des récessions économiques. Donc, ça voudrait dire une participation plus forte de groupes, par exemple, des coopérateurs de couleur, jeunes, LGBT.
Ouais, exact.
Et aussi quelque chose de plus participatif, moins de personnes qui se présentent sur une scène pour comme faire la leçon aux jeunes.
Ben, si j'ai bien compris, la journaliste du journal Ensemble mentionnait qu'il était censé normalement lire ou déclarer la déclaration, pardon, à la fin du sommet. Finalement, à la dernière seconde, ça a été annulé. La déclaration n'a pas été lue, mais ça a été mentionné. Et selon la journaliste, les jeunes se sont dit quand même satisfaits que ça a été mentionné. Ouais. Mais la déclaration n'a pas été partagée ou lue en tant que telle.
C'est des vœux pieux. Mais là, je crois qu'on peut passer à la prochaine chronique. Mm-hmm. C'est que je voulais présenter un entretien que j'ai eu avec une coopérative de Québec qui s'appelle Construction Ensemble. J'ai pu parler avec un des fondateurs de Construction Ensemble.
Polyvon Blanchette,
oui,
que je connais d'ailleurs, est assez actif à Québec.
Polyvon Blanchette, j'ai fait ça cette semaine.
Aujourd'hui, on a avec nous Polyvon Blanchette qui travaille pour la coop Construction Ensemble, une coop de Québec, qui a été créé en 1986. Bonjour, Monsieur Blanchette.
Bonjour, Monsieur Étienne.
Pouvez-vous nous parler de votre rôle dans cette entreprise-là, Construction Ensemble?
Oui. Actuellement, je suis le trésorier de la coopérative de travail. Ma fonction, c'est d'être estimateur et administrateur, mais je suis le dernier membre fondateur survivant dans l'entreprise.
Okay.
C'est-à-dire que quand on l'a créé en 1986, on était 5 personnes et je suis seul qui demeurait jusqu'à maintenant.
OK. Pouvez-vous nous parler des services qui sont donnés par l'entreprise?
Comme le dit notre nom, coopérative de travail Les Constructions Ensemble, on est un entrepreneur général en construction qui a sa licence de la régie du bâtiment et on rénove principalement des maisons, des bâtiments dans le centre-ville de Québec, dans les quartiers centraux. Et on fait aussi des agrandissements de maisons un peu partout dans la ville, tant dans le résidentiel que dans le commercial.
OK. Pouvez-vous nous parler des débuts de l'entreprise, de son histoire, peut-être des défis que l'entreprise a rencontrés?
L'idée est née dans le cadre des activités du groupe de ressources techniques Action Habitation, qui est situé dans Limoilou. À l'époque, dans les années 80, Action Habitation avait un volet démarrage de coopérative d'habitation, un service d'architecture puis un service de gestion. Mais à l'étape des chantiers, de rénovation des maisons ou de construction, évidemment, ça a été donné à l'entreprise privée et constamment, il y avait des hausses de coûts. Donc, ça avait une influence sur les loyers potentiels des membres de coop d'habitation. On a eu l'idée, peut-être un peu naïve, de créer notre propre entreprise de construction à l'intérieur d'Action Habitation. Et c'est comme ça que l'idée d'une coopérative de travail, en conformité avec les coop d'habitation, est arrivée. Est-ce que ça a été une expérience heureuse sur un lit de rose? Mais pas nécessairement. On fait toujours la rénovation des travaux d'aménagement pour des coop d'habitation, mais la plupart de notre travail est fait soit avec des propriétaires privés ou des organismes à but non lucratif de la grande région de Québec.
OK. D'après vous, vu que ça va être le sujet de notre émission, quelles seraient les valeurs des coopératives? En quoi elles se distinguent vraiment des compagnies privées?
L'entreprise privée, dans le domaine de la construction, à 90 % est composée d'individus seuls qui mènent leur entreprise souvent à bout de bras. Les individus prennent les risques, décident complètement, accumulent les profits et ils n'apprécient pas. Ils apprécient leur main-d'œuvre si elle est rentable, mais ils n'apprécient pas particulièrement la main-d'œuvre. Tout ce qui compte pour eux, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est le profit qui reste à la fin de l'année. Bon. La coop est complètement différente. C'est-à-dire que le membre qui travaille sur un chantier comme charpentier-menuisier, toutes les heures qu'il fait, il profite ou il tire un intérêt de travailler dans l'entreprise. les salaires sont bons dans la construction, il est membre de l'entreprise. Si l'entreprise, à la fin de l'année, dégage des surplus, une partie des surplus reste à la réserve générale, une autre partie est répartie selon les membres, selon les heures faites par ces membres-là durant l'année. Le partage du surplus est complètement différent de l'entreprise privée. Ce surplus partagé peut être traduit en part privilégiée au nom de l'individu dans l'entreprise. Il faut que ça reste dans l'entreprise pendant 5 ans. Ça donne droit à une déduction d'impôt de 125 %. L'entreprise verse aussi de l'intérêt sur ses parts privilégiées que les membres consentent de laisser l'entreprise pendant 5 ans. Fait que voyez-vous, c'est aussi notre fonds de roulement, hein? Une implication des membres pour maintenir, créer leur emploi, en créer d'autres. Bon, ça, c'est une distinction importante. L'autre distinction, c'est dans l'entreprise privée, tout se négocie au salaire, hein, qui est un peu moche. Hein? Bon, dès que l'individu vit une frustration ou qu'il a l'impression qu'il y a une charge plus forte, hein, il demande un salaire puis menace. Il demande une hausse de salaire et menace de s'en aller. Bon, je ne dis pas qu'on n'est pas à l'abri de ces choses-là, mais nous, sur chaque chantier, il y a un membre de l'entreprise. Ce membre, souvent, va être le contremaître, hein, ou le gérant de chantier. Il se préoccupe vraiment, est-ce que les portes sont barrées le soir, il planifie son chantier d'avance, on rend ça propre pour le client, on y rend ça sécuritaire quand on part pour le soir ou la fin de semaine, on sécurise nous-mêmes nos propres outils, puis ouais. Notre propre roulant. Bon, moi, je suis un gars de bureau, puis j'ai pas à me préoccuper, est-ce que Charles a barré la porte là, est-ce que le client est averti, est-ce que son chien est rentré dans la maison? Non. Ça, j'ai pas besoin de jouer au pitbull pour contremaître. Hein. Il y en a déjà 4 sur chantier qui font ça. Hein. Bon. L'entreprise privée, là, continuellement, tout le monde se méfie des responsables et de tout le monde. Hein.
Ouais.
Ça, c'est une grande distinction.
Donc, vous compteriez ça parmi les avantages d'être une coopérative, l'autonomie et la motivation de tout le monde qui est impliqué. Oui.
C'est ça, c'est bien résumé. C'est bien sûr qu'il y a un autre pendant à ça, hein. Tout ne peut pas être que positif. Hein? Les défis coop qu'on a relevés dans notre domaine, je vais quand même vous en mentionner un. Dans l'entreprise privée, quand il y a un seul décideur, il y en a un. Hein? Et puis, il donne un ordre une fois, si on veut, puis ça passe par là, on espère.
Bon. Ouais.
Dans notre cas, hein, là, il faut arrondir les coins. Hein? Il faut peut-être répéter une deuxième fois. Hein? Il faut soutenir un peu plus. Hein? Bon, ça, c'est... On sait que ça arrive. Hein. Puis comme on est quelques-uns à décider, ça se peut qu'on perde une directive, hein, d'enfant du plancher quelque part. Hein. Bon, voilà.
Ça demande la diplomatie.
Ah oui, ça demande la diplomatie, puis beaucoup d'expérience, hein, puis être prêt à travailler dans un système collectif. Hein.
Oui, on va peut-être se laisser après une dernière question. D'après vous, est-ce que le modèle coopératif a un avantage qui serait d'être mieux collé sur les besoins des clients? Ou d'être plus proche de la communauté, mieux conscient de leurs besoins?
L'entreprise privée, comme elle carbure à peu près uniquement au profit, elle se fout un peu. Il y a des entreprises, des entrepreneurs très consciencieux puis proches de leur clientèle. Mais ce qui compte, là, c'est ce qui reste à la fin. Hein. Bon. Mais notre but premier, oui, c'est de créer du travail pour les membres de la coop de travail. Bon. Mais pour y arriver, il faut vraiment qu'on satisfasse les clients et qu'on les mette en sécurité. Qu'on fasse le travail annoncé, qu'il y ait des prix abordables, que le travail soit de qualité, puis qu'il respecte là, les délais qu'on a prévus. Bon, si on fait ça, un client va être content, il va nous rappeler ou il va nous suggérer à d'autres personnes. Bon, moi, je pense que c'est un modèle qui met les gens en confiance maintenant. Il y a 30 ans, il venait avoir la fermeture de Tricophile, la coop de tomates de Manceau, puis quelques expériences négatives, et les gens n'avaient pas confiance. Le travail va être cher, puis ça ne terminera pas, ça va faire faillite. Mais maintenant, là, il y a assez d'expériences positives en coop de travail ou coop de solidarité pour dire un go, ça peut aller de l'avant. Je vous donne l'exemple dans plein air, là, la vallée Saint-Anne-Bras-du-Nord, là, Saint-Raymond-de-Portneuf, la gestion de la rivière. Là.
Bon,
ça se fait avec des gens de plein air, des propriétaires riverains, des commerçants du secteur, hein? Bon, et puis il se fait maintenant du canotage là, puis toute une série d'activités. Laisser ça entre les mains de l'entreprise privée, c'est certain qu'il ne se fait plus rien, les propriétaires riverains ne voudront pas embarquer. Hein? Bon, prenez la Barberie, c'est une coop de travail, puis je pense que les gens s'aiment y aller, hein? Puis ils sont en sécurité, on n'est pas dépendant d'un individu qui voit son chiffre d'affaires augmenter ou baisser, puis qui pique une crise. Hein? Bon. Moi, je pense qu'il y a bien d'autres exemples comme ça.
Ah, ben, intéressant. Ben, je vais vous remercier parce que c'est tout le temps qu'on avait. Alors, merci d'avoir accepté de nous parler des coopératives. Monsieur Blanchette, je vous laisse là-dessus.
Monsieur Blondeau, bonne journée à vous.
Oui, bonne journée à vous. Au revoir.
Bonjour.
Oui, donc c'était une entrevue avec Paul-Yvon Blanchette de la coopérative Construction Ensemble,
oui,
qui est située dans Vanier, je crois.
Oui, je crois, c'est ça. C'est une coop qui a plusieurs décennies d'existence, qui spécialise dans les constructions en bois, là, d'après ce que
j'ai. Oui, oui, oui. Je sais qu'il y a souvent des organismes communautaires, là,
oui,
en matière de réparation, construction et tout. Donc ça, c'est une entreprise de service, là. Mais il y en a plusieurs types d'entreprises, là. Il y a des mutualistes financières.
Oui.
Il y a des coopératives beaucoup plus axées sur les besoins communautaires, etc., là. Mais je trouve, dans qu'est-ce qu'il a dit, l'essentiel, mais bon, on pourra en parler, là, de ce qu'est la différence entre une coop et l'entreprise privée classique. Mais normalement, c'est juste que le propriétaire n'est pas le boss absolu qui prend toutes les décisions. Tu sais, exemple, une entreprise coopérative va probablement pas faire un vote à main levée. On vote de perdre nos jobs et de nous délocaliser aux Philippines.
Oui.
Tu sais, généralement, ça arrive pas. Et t'as moins l'oppression d'actionnaires. Donc, finalement, l'aspect démocratique est généralement le cœur du modèle coopératif.
Oui, moi, si je résume, je crois que ça en fait des entreprises très résilientes, tu sais, dans les périodes de choc, de récession économique. Bon, ils vont serrer les coudes. Le but, c'est pas d'augmenter de quelques points de pourcentage les profits en mettant à la porte tout le monde, vu qu'ils sont aussi propriétaires.
Non, c'est ça. Des fois, les actionnaires sont un peu tyranniques, là. Ils peuvent détruire une entreprise, alors que c'est sûr qu'il peut y avoir des coops qui ont des actions. Il y a sûr des modèles hybrides. Il y a aussi des coopératives plus ou moins démocratiques aussi, il faut le savoir, là. Il peut y avoir une propriété collective, mais où les membres sont pas vraiment consultés, pas vraiment mis de la partie. Si on prend les coopératives de santé, là, tu sais, la question se pose, est-ce qu'une coop de santé, c'est quelques médecins ensemble qui décident? Que la communauté n'est pas vraiment dans le coup, ou est-ce que la coopérative de santé, c'est vraiment les citoyens et la clientèle qui participent au processus décisionnel? C'est deux modèles complètement différents.
Oui, il faut être collé sur les besoins de la communauté.
Donc, on va partir en pause, en fait, pause publicitaire, mais on va faire jouer aussi la chanson « La petite bébite des colocs » dans laquelle Dédé Fortin se dissocie des, si vous me permettez, des arrivistes et des bourgeois.
C'est plutôt une race psychologique qu'un produit social.
Je crois, oui.
89.1 ckrl.qc.ca.
C'est une fois un Loto 649 et un Québec 49 qui se lâchaient pas d'une semelle. À force de se coller ensemble sur le même billet, ils ont donné naissance à des lots bonus. C'est une fois un Loto 649 et un Québec 49 qui se lâchaient pas d'une semelle. À force de se coller ensemble sur le même billet, ils ont donné naissance à des lots bonus de 49 000 $. 5 lots parfaitement identiques, c'est pas rien. Ben depuis ce temps-là, on dit partout dans la province qu'ils firent beaucoup d'heureux et donnèrent beaucoup d'argent.
Pour les tirages du 18 octobre au 1er novembre, en achetant un Loto 649 et Québec 49 sur un même billet, courez la chance de gagner un des 5 lots bonus partageables de 49 000 $. Ajoutez l'extra pour un forfait tout garni. Signez toujours votre billet. Détails à lotoquebec.com.
Problèmes de santé, séparation, accident, décès d'un proche, perte d'emploi. La pauvreté n'est pas un choix. Elle peut toucher un ami, un membre de la famille, un collègue. Du 13 au 19 octobre, à l'occasion de la Semaine de la solidarité, faisons preuve d'ouverture et d'entraide à l'égard des personnes en situation de pauvreté. Travaillantes, fières, compétentes, elles veulent s'en sortir. Pour plus d'informations, consultez le site internet semaine-de-la-solidarité.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook.
Du 9 au 19 octobre, vivez le festival Québec en toutes lettres. Sous le thème « Double et pseudo », 200 écrivains et artistes proposent une quarantaine d'activités. En vedette, Kim Thuy, Romain Gary, Daniel Danis et Roland Lepage. Procurez-vous dès maintenant votre macaron. Québec en toutes lettres pour découvrir votre identité littéraire. Une présentation de l'Institut canadien de Québec et de la Ville de Québec.
Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez
20,000 Days on Earth, La Belle et la Bête, Le Juge, l'Opéra National de Paris présente Balanchine et Mille Pieds, la Rencontre internationale du documentaire de Montréal à Québec présente Is the Man Who Stole Happy, Tu veux ou tu veux pas.
Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation,
20,000 Days on Earth, Aventurier Voyageur Guatemala, La Belle et la Bête, Tu veux ou tu veux pas.
Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.
89.1.
Les chars soviétiques entrent dans Budapest.
Un deuxième char le suit de près?
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on voit ce qu'on vous fait parce que vraiment c'est extrêmement dangereux.
CKRL.QC.ca.
Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone.
Bienvenue à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Capitale Nationale ou d'Attaque Québec. On a le professeur Luc Audebrand. Est-ce que j'ai massacré votre nom? C'est pas pire. C'est la première fois, je l'avais un peu déformé. Qui était conférencier lors du sommet quand même. Un des 200 conférenciers, professeur adjoint titulaire à l'Université Laval en administration. Puis oui. Vous avez une chaire?
Oui, en fait, c'est une chaire qui s'appelle la chaire de leadership en enseignement en création et gestion de coopératives et d'entreprises collectives. Et l'objectif de cette chaire-là, en fait, c'est de faire la promotion du modèle coopératif, des principes et des valeurs coopératives au sein de la population étudiante, non seulement du département de la faculté d'administration, mais aussi au sein de tout le campus universitaire. Donc, c'est un... on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est un gros boulot.
Okay. Mm. Oui, non, c'est ça. Donc, au sein de la grosse... comment on appelle ça? La faculté oui. d'administration de Laval, vous êtes... Est-ce qu'il y en a-tu beaucoup qui promeuvent le modèle coopératif?
En fait, on est quelques professeurs à avoir un intérêt envers des modèles dits alternatifs par rapport à aux entreprises conventionnelles, au capitalisme de base. Okay. Donc, des professeurs qui s'intéressent soit à l'entrepreneuriat collectif, d'autres à la responsabilité sociale des entreprises, mm-hmm. de façon un peu plus... mais une responsabilité plus radicalement différente. Mais faut être honnête, c'est quand même... au sein de la faculté, mais aussi au sein de l'université, on est quand même minoritaire à okay. avoir des intérêts dans ce type ouais. d'organisation.
Ça représente un peu la société actuelle, c'est normal que pour l'instant, c'est...
En effet, en effet.
Donc, Étienne, qui coanime avec moi, plusieurs questions pour vous aujourd'hui.
Oui, ben je pensais commencer en reparlant du sommet international mm-hmm. qu'il y a eu l'autre semaine. C'était quoi vos impressions pour avoir participé à des événements?
C'est une très bonne question parce que, en fait, comme vous le savez sûrement, c'est un sommet qui était organisé par des grandes coopératives. Vous ouais. savez que le monde coopératif est comme tout est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Il y a des coopératives gigantesques mmh. et il y a des toutes petites coopératives et en fait, ce sommet-là a été organisé par des énormes coopératives. Et quand, mmh. pour vous donner un exemple, Desjardins, qui est une coopérative à la base, est 39e parmi le Global 300, qui est les 300 plus grandes coopératives du monde. Desjardins a la 39e place, ou 36e okay. place, je crois. Hmm. Donc, on était vraiment au sein d'énormes coopératives. Des coopératives financières, évidemment, c'est elles qui ont beaucoup d'argent, mais aussi des coopératives agricoles, des coopératives de services, en fait, dans plusieurs domaines. Donc, c'était surtout un lieu de rassemblement pour ces grandes coopératives-là. Et donc, pour des gens comme moi qui ont plus d'intérêt envers les petites coopératives, là, mmh. je vois, vous avez ici la Barberie ou à la rigueur, la Librairie Pantoute, qui est une coopérative de travailleurs actionnaires, on a de la difficulté à trouver son intérêt lorsqu'on parle de très, très grandes coopératives. Ceci étant dit, ces grandes coopératives-là ont tout de même à cœur le développement du mouvement coopératif et le mmh. développement des petites coopératives. Mmh. Donc, il y a plusieurs de ces grandes coopératives-là qui donnent de l'argent, qui dirigent leur argent vers l'aide à de petites coopératives. Donc, il faut quand même accepter aussi leur... voir le côté positif de la chose, qu'on a grâce à ces grandes coopératives-là qui œuvrent dans des domaines internationaux, qui œuvrent dans la finance, on a accès quand même à des moyens pour développer de plus petites coopératives qui, elles, innovent et elles ont un impact concret pour les localités. Ceci étant dit, les grandes coopératives ont un impact concret aussi, mais souvent, on le voit moins, on a moins l'impression que c'est un impact concret que la petite coop du coin ou la petite coop du village, comme à Saint-Fidèle, le magasin général de Saint-Fidèle, qui permet de garder un magasin général dans le village, voyez-vous. Mais ceci étant dit, j'ai bien aimé la semaine. C'est sûr que de point de vue de chercheur, j'ai pu faire des contacts. J'ai pu aussi voir à quelle mesure il y avait quand même un impact des coopératives et même des grandes coopératives sur la qualité de vie des gens. Je vais donner un petit exemple. On peut voir que les pays dans lesquels on retrouve le plus de coopératives et sont aussi les pays dont l'indice de progrès est le plus élevé. Donc, il y a même une corrélation dans le monde entre la quantité et la place des coopératives dans l'économie et la qualité de vie je parle pas du PIB, je parle de, des indices différents comme le Gini ou des indices de progrès ou de bonheur. Donc il y a on voit que les coopératives participent, c'est une corrélation, c'est pas une cause à effet, mais c'est une corrélation, participent à un monde meilleur au sein des communautés dans lesquelles elles se trouvent. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez. Donc l'avantage d'un sommet comme celui-ci, c'est aussi le fait d'en parler dans des radios communautaires comme la vôtre, mais aussi dans les autres radios ou autres médias, qui font en sorte qu'il y ait des gens qui se posent la question. Ouais, il y a des coopératives, je vois ça par-ci, par-là. Mais c'est quoi, en fait? Donc, on se pose des questions, puis là, ça nous permet à des gens comme moi ou d'autres personnes de venir expliquer un peu plus c'est quoi le modèle coopératif, puis ses avantages et ses inconvénients, évidemment.
Oui, et ce qui est intéressant avec ce sommet-là, c'est que c'était une occasion pour les coopératives de se parler entre elles et de partager leurs expertises. D'ailleurs, dans le cadre de ce sommet-là, vous participiez à un événement sur l'éducation au modèle coopératif. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que c'est?
Tout à fait. Parmi les principes, il y a l'Alliance coopérative internationale a élaboré au cours des années divers principes coopératifs que normalement toutes les coopératives doivent suivre. Et si vous allez regarder sur le site de l'Alliance, le principe numéro 5, le cinquième principe, c'est celui de l'éducation, de la formation et de l'information aux membres et à la communauté, au modèle coopératif. Et donc, c'est un principe très important parce que, évidemment, les coopératives se sont rapidement rendues compte, dès les premiers, les pionniers de Rockdale, les premières coopératives, se sont rendues compte qu'il n'y a personne qui allait faire l'enseignement du modèle coopératif si elles ne s'y mettaient pas. Oui. Que ça n'allait pas être enseigné dans les écoles de gestion, je ne l'ai toujours pas, et que ça n'allait pas être enseigné à l'université ou ça n'allait pas être enseigné n'importe où. Donc, elles ont senti le besoin de mettre ce principe-là, le principe que chaque coopérative doit faire un effort pour enseigner le modèle coopératif à ses membres et que ça doit être un effort, ça fait partie des valeurs fondamentales d'une coopérative.
Je sais qu'au Québec aussi, ils encouragent les coop à l'afficher, à s'en servir, à en être fier, en quelque sorte, en faire partie de son marketing, de dire nous sommes une coop, c'est une valeur ajoutée, venez nous voir.
Oui. En fait, oui, et on n'a pas le droit de s'appeler coop si on n'est pas enregistré le statut juridique de coopérative, par exemple, au Québec. C'est l'un des éléments qui caractérise notre loi. Et donc l'éducation, le problème qu'on a remarqué, c'est que moi, de mon point de vue, moi, je travaille dans une école de gestion, j'enseigne dans une école de gestion, et vous savez que dans le monde, il y a à peu près 10 000 écoles de gestion. Donc, il y a beaucoup d'écoles de gestion, il y a beaucoup d'universités, mais il y a 10 000 écoles de gestion. Et parmi ces 10 000 écoles de gestion, on les compte sur les doigts de quelques mains le nombre qui enseigne le modèle coopératif. Ce qui fait en sorte que les gestionnaires ou les futurs gestionnaires qui vont sortir de ces écoles de gestion-là, soit pour travailler dans une entreprise, soit pour démarrer une entreprise comme entrepreneur, mais n'auront pas les outils pour le faire. Et donc, ne seront pas portés à démarrer une entreprise sous ce modèle-là parce qu'ils ne le connaissent pas et parce que personne ne leur a enseigné. Donc, on est dans un cercle vicieux. Donc, l'objectif de ce panel-là, c'est d'essayer d'aider les gens qui étaient présents dans la salle à développer des moyens, des trucs pour augmenter la présence du modèle coopératif dans les écoles de gestion, entre autres, et dans les universités, et aussi pour faire en sorte que les coopératives fassent plus d'éducation. Et là-dessus, au Québec, on en fait beaucoup. On a Desjardins, évidemment, qui en fait beaucoup. Il y a le CQCM, le Conseil québécois de la coopération de la mutualité, qui en fait beaucoup. Il y a des programmes dans les écoles. Il y a la caravane de coop. Il y en a beaucoup, mais on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Il y a d'autres pays, par exemple, comme le Singapour, qu'on pense pas comme étant le lieu de prédilection des coopératives, qui, malgré tout, fait énormément d'efforts pour l'éducation coopérative. Donc, on est capable d'en faire beaucoup plus ici aussi.
Le gouvernement Singapour?
Non, c'est pas le gouvernement. C'est les différentes coopératives qui existent, qui ont décidé de vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, ils font entre autres des courses aux coopératives. Donc, les gens doivent courir et aller prendre des photos d'eux auprès des coopératives. Et donc, c'est un marathon coopératif.
La population appuie? La population est-tu en embarque-tu là-dedans?
Ben, ça, c'est la bonne question. Hein. Si on parle, vous savez que si on fait il y a eu un récent sondage qui a été fait par l'IRECUS, qui est un centre de recherche sur les coopératives à l'Université de Sherbrooke, et un sondage international qui disait, les résultats sont affreux, que 78% des répondants n'avaient aucune idée de ce qu'était une coopérative, ne pouvaient même pas nommer une coopérative.
Dans quel pays, au Québec?
Ça, c'est Partout dans le monde, y compris au Québec. Bon, au Québec, peut-être que c'est un peu plus. Mais même, certains ne pouvaient pas nommer, que, par exemple, que Desjardins était à la base d'une coopérative, que la Coop fédérée, et ainsi de suite. Et donc, on a un énorme travail à faire en matière d'éducation coopérative, parce que c'est tout simplement pas connu, et on n'en connaît pas non seulement la nature, on connaît pas l'impact que ça a sur la société, l'impact que ça a sur la trame sociale, sur de
c'est justement une de nos questions. Mais pour les citoyens et citoyennes, ce serait quoi un peu leur intérêt? Dans le sens que pour les gens qui nous écoutent, là, les citoyens en général, est-ce qu'ils devraient promouvoir le modèle coopératif? Pourquoi? Pas juste comme membre d'une coop, mais pour des raisons sociales, politiques ou autres.
Oui. Ah ben c'est sûr que différents niveaux. C'est sûr que moi je suis à côté de mon poste de professeur d'université, j'ai quand même un petit côté militant, donc c'est sûr que je veux promouvoir le modèle. Ceci étant dit, faut pas le promouvoir juste parce que c'est différent, faut le promouvoir parce qu'il apporte quelque chose à la société. Et donc on voit que il y a plusieurs coopératives qui ont un impact dans les communautés, non seulement communautés urbaines, mais communautés rurales. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, je vous ai parlé du magasin général à Saint-Fidèle. Saint-Fidèle, c'est un peu après la Malbaie. C'est un magasin général. En fait, c'est un village qui n'avait plus de magasin général, qui n'avait plus de station-service. Et donc, la population, à peu près 500 personnes, la population s'est mise ensemble pour démarrer une coopérative de solidarité pour créer, donc, non seulement le nouveau magasin général, aller chercher une station-service, avoir un boucher, un petit restaurant, et donc recréer une vie au sein d'un village qui était avant ça, le premier magasin était à 16 kilomètres.
Ouais.
Donc là, vous parlez de l'impact. Pourquoi supporter les coopératives? Ben, c'est entre autres pour des raisons comme celle-ci. C'est dans des milieux où on perd des services. Et au Québec, il y a énormément de milieux où il y a des pertes de services et pertes de services de proximité, entre autres. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi une coopérative qui sert de lieu de rassemblement au sein d'une communauté. Donc, dans Bellechasse, vous avez, entre autres, dans la région dans Buckland, ben, vous avez une coopérative, une microbrasserie coopérative qui est non seulement une microbrasserie coopérative, mais qui sert de lieu de rassemblement pour les gens du village, pour les gens des villages environnants. Donc, un impact des coopératives, je crois que ça, c'est un énorme impact, un premier impact des coopératives.
Ouais.
Là, je vous ai donné des exemples.
Les besoins locaux, puis l'appropriation locale.
Exactement. Okay. C'est de répondre. La prémisse d'une coopérative, c'est de répondre à aux besoins de ses membres.
Okay.
Donc, s'il y a des besoins qui ne sont pas répondus par le marché, ou qui ne sont pas répondus par d'autres entreprises qui décident à l'arrière de partir, mais c'est là souvent qu'une coopérative prend place. Ça peut être ça. Comme ça peut être aussi pour certaines personnes le désir de s'associer autrement. Comme par exemple des gens qui décident, mais nous on veut partir une entreprise, mais on n'a pas envie de le faire de façon classique. Donc on va se partir une coopérative de travail, comme la Barberie qui n'est pas très loin d'ici. Donc une coopérative de travail où on est tous propriétaires de la coopérative et ça veut pas dire que c'est de la vie est rose, mais au moins ça nous appartient à nous. Donc il peut avoir des avantages pour la population générale, comme dans les cas que je vous ai donné, comme le magasin général Saint-Fidèle, ou tout simplement pour les membres, ça peut être une dizaine, une quinzaine de membres, voire moins. Donc, il y a différents niveaux d'impact sociaux des coopératives.
Okay. Moi, j'aurais beaucoup de questions, parce que ça m'intéresse énormément. Je pense à beaucoup d'impact politique et social aussi. Le fait de fonctionner de manière démocratique dans notre vie tous les jours. Parce que, dans le fond, le travail, c'est pas mal, 8 heures, pour beaucoup de monde, 8 heures par jour. Donc, si notre société, on passe 8 heures par jour dans des modèles non démocratiques, on peut se poser la question jusqu'à quel point notre société est démocratique.
Tout à fait.
C'est que moi, je trouve ça bien intéressant. Il ne reste pas beaucoup de temps. Ce que je me disais, Étienne, peut-être toi, tu aurais d'autres questions?
Moi, je me demandais, vu qu'on parlait des jeunes coopérateurs précédemment dans l'émission, je me demandais, croyez-vous qu'il y a vraiment un intérêt marqué des jeunes pour se lancer en coopérative, que ce soit à l'international ou au Québec, rapidement?
Il y a un énorme intérêt. Il y a un intérêt surtout chez les jeunes qui ont été habitués à travailler ensemble à l'école. Ça, c'est le premier élément. Et il y a un intérêt aussi parce que la plupart des jeunes veulent travailler, veulent se donner, mais on veut avoir aussi une qualité de vie. Et quand on partage un peu notre labeur, ben ça peut être utile. Donc avoir des gens qui travaillent avec nous, qui partagent aussi la responsabilité et sur lesquels on sait qu'on peut se fier, mais ça diminue un peu la pression individuelle.
Oui.
Donc donc il y a des jeunes qui seraient prêts à utiliser ce modèle-là, mais il faut par contre qu'on leur enseigne, qu'on leur explique. Et ça malheureusement c'est très peu fait.
Un travail de promotion.
Qu'ils voient l'intérêt, puis qu'on leur fait voir justement là, qu'est-ce que ça va leur donner. Donc merci beaucoup, Monsieur Luc Audebrun. Peut-être vous réinviter, parce que je pense que le modèle coopératif, là, voudrait en parler beaucoup plus.
Ça va me faire plaisir. En plus, vous êtes situé dans un super beau quartier.
Ouais. Donc, on passe à notre chanson thème qui va nous mener à la chronique événementielle.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Aujourd'hui, on a...
Je peux y aller? Oui, bon. Oui, excusez-moi. Donc, notre chronique événementielle. Cette semaine, je vais faire un spécial manifestation, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de conférences, projections, ateliers, etc. Je peux pas toutes les nommer. Il faut aller voir sur réseauforum.org. Mais pourquoi je fais un spécial manifestation? Ben, faut se l'avouer, c'est le genre d'événements qui sont particulièrement pas publié du tout dans les médias, donc il faut le mentionner quand même dans les radios communautaires. Lundi 20 octobre, il y a une mobilisation contre l'austérité à sens unique du gouvernement Couillard. C'est un peu long comme titre. À sens unique, on devine que ça veut dire que c'est l'austérité pour nous, mais pas l'austérité pour eux, on s'entend. Ça, c'est une initiative citoyenne indépendante sur Facebook, mais c'est ce lundi. À 9h du matin, ça commence à l'Assemblée, devant l'Assemblée nationale. Il y en a beaucoup d'autres actions contre l'austérité, mais je vais les nommer plus tard. Mardi 22 octobre, on a une marche silencieuse contre la répression des personnes marginalisées et pour des solutions. Et par solution, on pense à le fait que les enquêtes devraient être indépendantes et transparentes lorsqu'il y a abus policiers ou mort d'homme, comme récemment avec M. Guy Blouin. Une clinique juridique accessible aux personnes marginales, un service d'injection supervisé, mais aussi abolir les règlements discriminatoires. On pourrait faire une émission complète juste là-dessus, les règlements discriminatoires, là, mais le flanage, on s'entend que seulement certains individus vont avoir cette amende. Donc ça, c'est mardi à midi, à partir du parvis de l'église Saint-Roch. Jeudi, vendredi, il y a beaucoup d'événements. Je peux pas toutes les nommer, mais je vous dis quand même en rapidement les thèmes, juste pour vous mettre... l'eau à la bouche. On a l'éducation populaire, les chaînes alimentaires, il y a le réseau éco-socialiste qui fait une assemblée à Québec, les droits et recours par rapport au curateur public ou devant le curateur public. On a une soirée bénéfice ce vendredi pour la Maison des femmes à Québec. On a aussi une activité qui se nomme « Être citoyen éco-responsable ». Ça, c'est organisé c'est une invitée de Équiterre. C'est organisé par le comité Gaïa du Cégep Sainte-Foy. Vous pourrez voir tous les détails de ça là, sur réseauforum.org. Mais la semaine après, donc dans deux semaines, il y a énormément d'activités. Puis je vais vous en reparler la semaine prochaine, là, mais je veux quand même vous en parler tout de suite. Lundi, dans deux semaines, il y a une commission populaire sur la répression politique. Vous pourrez aller voir sur Internet. Il y a une coalition régionale. Là, je passe à un autre sujet. Là, on revient à l'austérité. La coalition régionale et une coalition nationale organisent beaucoup de choses. À Québec, il y a des activités contre ce qu'ils appellent les consultations bidons. Je crois que les commissions mais les commissions actuellement que M. Couillard a mis en place, comme beaucoup d'autres commission jadis, on se demande vraiment, en tout cas, entendons-nous, le gouvernement a déjà décidé, dans le fond.
Ben, ça va faire d'autres rapports à tabletter.
Ouais, exact. Donc, du 28 au 30 octobre, il y a beaucoup d'actions, vous pourrez voir sur Internet, mais le 31 octobre, il y a une grande manifestation nationale qui est à Montréal, mais il y a des autobus de Québec. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir repac.org, R-E-P-A-C.org, qui est un grand regroupement d'éducation populaire à Québec qui organise un transport. Mais il y a beaucoup d'actions à Québec aussi. Donc, vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous pouvez voir tout ça sur réseauforum.org. Maintenant, on va passer au mot de la fin. Excusez-moi. D'abord, évidemment, il y a l'équipe du journal Ensemble qu'on remercie. Paul-Yvon Blanchette de la coopérative Construction Ensemble qui a bien voulu nous parler aujourd'hui, ainsi que le professeur Luc Audebrand, qu'on va sûrement réinviter parce que je pense que le modèle coopératif, il faut vraiment en reparler beaucoup plus. Et l'émission d'aujourd'hui était coordonnée, produite par Étienne Blondeau. Mm-hmm. Merci beaucoup, Étienne. Moi-même, Michael Lassard et Marie-Christine Aubin-Côté, on a assisté. La chronique événementielle, c'était moi aussi, pour le média réseauforum.org. On remercie aussi David-Maxime Sanson à la mise en onde. Maintenant, vous pouvez écouter l'émission en ligne, vous pouvez commenter, nous envoyer des messages, des suggestions, incluant des suggestions de chansons. Aussi, on recrute, hein? On aimerait ça agrandir l'équipe, avoir plus de monde. C'est que si ça vous intéresse, que ce soit la mise en onde ou juste nous conseiller, même juste suggérer des chansons, tout ça, on est très ouvert à vous accueillir, à agrandir l'équipe. Notre site internet, c'est legraindesableqc.wordpress.com où vous allez voir toutes les informations. Donc, notre compte Twitter, Facebook et tout ça. C'est que demeurez à l'antenne. Bougez pas. Oui. Donc, Étienne, est-ce que tu veux peut-être nous parler les émissions prochaines? On a des thèmes à venir. On peut peut-être...
Oui.
En donner un aperçu?
Ben, on pensait parler d'abord de ce que l'ère numérique, ce que le passage à ce que plus de monde ait accès à l'Internet, qu'est-ce que ça signifie pour notre société ou notre économie?
Oui, le choc numérique.
Oui.
C'est ça que. Ben, Marie-Christine Aubin-Côté, qui est une de nos collaboratrices, est passionnée sur le sujet. Elle veut vraiment qu'on en parle de l'impact de l'Internet sur nos vies.
Ensuite, on essaiera de parler de la censure ou du contrôle de la science qui est faite par le gouvernement de Harper.
Oui, oui. Oui, malheureusement. Donc, demeurez... Non, il nous reste... Excusez-moi.
Oui, donc, on va sûrement... On va peut-être faire une émission sur l'écologie, je dirais... peut-être loin dans quelques mois, mais c'est des thèmes qu'on voulait couvrir, c'est ça, l'informatique, la science.
Ben, je t'interromps, il y a aussi l'accord, personne n'en parle, parce que c'est un sujet lourd peut-être, mais l'accord économique entre le Canada et l'Europe, qui appelle un accord de libre-échange, c'est pas un sujet évident, mais je pense qu'on aimerait ça en parler. On va sûrement inviter Claude Vaillancourt du mouvement ATTAC, qui se spécialise là-dessus, qui a écrit un livre d'ailleurs. On va aborder ce sujet-là aussi. Pour l'écologie, dans le fond, c'est qu'on sent que, comme beaucoup de gens, il y a comme un sentiment d'urgence écologique.
Oui.
Puis le sentiment qu'il faut faire les liens.
Oui.
Que ce soit politique fédérale, provinciale, notre vie de tous les jours, il y a des liens qu'il faut faire. Puis il faut absolument trouver des solutions.
Oui, avec ce sujet-là comme ciment pour rejoindre plusieurs mouvances.
Oui. Parfait. Donc, demeurez à l'antenne, on passe à la prochaine émission qui s'appelle « Les geeks contre-attaquent sur les ondes de CKRL 89,1 FM, la radio qui cultive vos goûts ».